Merci beaucoup Jean-Louis. Bonne année à tous. Heureux de retrouver certains visages et d'en découvrir d'autres, soit en présentiel, soit en ligne. Nous allons donc parler de religion. Alors, nous pouvons nous demander si nous sommes encore dans le sujet, c'est-à-dire si nous faisons de la philosophie en parlant de religion. Et bien sûr, il faut répondre oui. La religion est aussi une question philosophique. Alors, quel intérêt y a-t-il à s'interroger en philosophe sur ce qu'est la religion? Je dirais peut-être quelques mots sur, me semble-t-il, certaines valeurs qui ont été défendues intellectuellement par les personnalités qui inspirent notre association, c'est-à-dire d'abord Jacques de Montléon et puis Daniel Joseph Lallemand. Ils sont thomistes, l'un et l'autre, l'un philosophe, l'autre aussi théologien, pour Daniel Joseph Lallemand. Mais comme thomistes, ils sont évidemment attentifs au lien qu'il y a entre la philosophie et la religion, et la philosophie et la foi chrétienne, tout en insistant sur le respect de l'autonomie de la philosophie. Hein, la philosophie a est un discours, une pensée qui a sa consistance propre, qui lui vient de l'exercice de la raison. Ça, c'est une valeur importante pour le thomisme, mais aussi, bien sûr, l'insistance sur l'ouverture de la réflexion philosophique aux questions religieuses et même aux questions théologiques. De la même manière, on va insister dans la tradition thomiste sur la spécificité et l'autonomie de la théologie, d'une réflexion qui est menée à la lumière de la révélation chrétienne, mais on va insister aussi sur l'importance en théologie du questionnement philosophique et des implications philosophiques de la foi. On va s'interroger sur la rationalité de la foi. Est-ce que c'est rationnel de croire ce que la foi chrétienne enseigne? Les implications philosophiques de la foi, disais-je, c'est aussi, et nous allons beaucoup en parler pendant nos réunions, la dignité de la personne humaine. Donc, nous allons réfléchir ensemble d'un point de vue d'abord philosophique, mais en restant ouvert aux questions théologiques, sur le fait religieux. Alors, ça nous pose déjà comme question, ben, qu'est-ce que c'est qu'une religion? Et réfléchir, si on avait le temps, je vous demanderais de chacun de donner votre réponse. Hein. Comment est-ce que vous comprenez le fait religieux? Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Bienvenue Jean-Luc. Comment penser la vérité d'une religion? C'est une autre question qui me semble appartenir à une réflexion philosophique. Hein. Qu'est-ce qui nous permet de dire que la religion, telle religion est dans le vrai, dans le faux? Est-ce qu'il y a une vraie religion? Est-ce qu'il y a des fausses religions? Est-ce que c'est une bonne manière de poser la question? Est-ce que l'expression il n'y a qu'une seule vraie religion est légitime, admissible? Et puis, et c'est aussi une question politique et donc philosophique fondamentale, comment penser et vivre la cohabitation des diverses religions, puisqu'on doit constater qu'on soit croyant ou pas, ou quelles que soient nos appartenances religieuses, qu'il y a dans notre société pluralité de religions. Et l'ouvrage de M. Puivet, que nous allons un peu lire et nous allons entendre M. Puivet lui-même, qui se réclame à la fois du thomisme et de la philosophie analytique, entend aborder cette question difficile de la cohabitation des diverses religions. Et il le fait d'une manière assez personnelle et qui peut nous sembler parfois même un peu provocante. On va On se donnera le temps de se mettre à l'écoute de cet auteur et puis de préparer les questions que nous lui adresserons au moment de la conférence. L'idée a d'abord été cependant, dans cette soirée, cette première soirée, de réfléchir à ce que l'on appelle, dans le domaine du droit, la liberté religieuse. Et pour cela, on va faire quelque chose qui, pour le coup, n'est pas très philosophique, mais mon sentiment, notre sentiment quand nous en avons discuté en équipe pour la préparation de cette séance, c'est que un texte du Concile Vatican II sur la liberté religieuse nous permettrait de mettre au clair nos idées sur ce qu'on appelait la liberté religieuse. Ce qu'on appelait liberté religieuse au Concile, parce que ça habite nécessairement notre esprit lorsqu'on réfléchit à ce qu'est la religion et à la question de la cohabitation des religions. Et puis, ça me permet de rappeler l'importance et l'admiration du chanoine Daniel Joseph Lallemand pour l'enseignement délivré par le Concile Vatican II. Une admiration qu'il portait au Concile et à l'enseignement du Concile, à la fois pour sa teneur théologique, mais aussi pour les vérités fondamentales d'ordre philosophique, rationnel, que le Concile avait mises en lumière. Alors, nous allons lire deux textes. Alors, on vous en a communiqué deux, mais on va surtout travailler sur la déclaration sur la liberté religieuse, intitulée par ses premiers mots en latin Dignitatis Humanae, la dignité humaine, qui a été promulguée il y a maintenant 60 ans, ou bientôt, il y aura bientôt 60 ans, en décembre 1965. Je commencerai par, je m'en expliquerai, lire quelques extraits d'une autre déclaration du Concile Vatican II, intitulée Nostra Aetate, promulguée en octobre 1965, quelques mois avant la déclaration sur la liberté religieuse. Nostra Aetate portait sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Et je commencerai par Nostra Aetate parce que on essaie de définir, enfin, on donne des éléments plutôt de définition. de ce qu'est la génération, la religion comme fait humain, comme fait humain dans l'histoire. Et puis, bon, dans le courrier que Jean-Louis nous a adressé, il y a un autre texte, mais finalement, je me disais que cet autre texte, nous pourrions le lire pour la dernière séance, donc on a pris de
Quel
l'avance
est
cette
l'autre
fois.
texte? Je n'ai
Alors,
pas fait
l'autre texte, c'est une conférence de Notre-Dame prononcée.
je l'ai pas vu, ça.
Mais vous l'avez pas, il me semble que vous l'aviez diffusée avec mon. Alors, c'est peut-être. Alors, en
Non,
fait, je ne dis rien. J'ai
je
cru envoyer un courrier
ne crois pas,
qui n'a
non.
pas dû parvenir. Bon, très bien.
Bon,
Donc, je ne
on
dis
en
rien. Ça
reparlera.
compliquera. Ça, mais je croyais avoir vu que dans votre courrier, vous aviez
Non, non,
envoyé
non.
le texte. Donc, je ne l'ai pas vu. Très bien. Donc, on terminera. Ben, je peux annoncer le plan. On terminera par un texte plus, comment dire, peut-être plus accessible que les textes de Puivet, mais plus ancien aussi, qui est une conférence de Notre-Dame prononcée par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Monseigneur Dulst, le fondateur de l'Institut catholique de Paris, qui a, comment dire, proposé au grand public d'ailleurs, plus cultivé en matière religieuse que n'est le public aujourd'hui, les grandes lignes de la morale thomiste. Et c'est un texte que j'ai découvert et qui me semble très intéressant pour qui veut ouvrir une fenêtre sur le monde du thomisme lorsque il n'en connaît pas nécessairement toutes les notions dans leur précision, etc. On verra ça, donc ce sera un dernier texte qui aborde la religion comme l'aborde saint Thomas, c'est-à-dire comme une qualité d'âme, comme une vertu. Ce qui me semble être aussi une piste qu'il nous faudrait aujourd'hui, piste de réflexion qu'il nous faudrait aujourd'hui reparcourir à l'école à la lumière de saint Thomas. Mais aujourd'hui, je voudrais que en partant des textes relativement courts et je crois très clairs du Concile Vatican II, nous nous interrogions sur ce qu'est la religion et en politique, en droit, ce que doit être la liberté religieuse. Je lis un extrait de la première déclaration, alors là vous n'aviez pas le texte, Nostra Aetate, donc sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Donc c'est un texte du Concile, ça n'est pas un texte philosophique en ce sens que ça n'est pas un texte qui questionne de manière philosophique une réalité, c'est un texte qui affirme beaucoup, hein, mais qui en affirmant donne des définitions claires. Et porte des jugements assez clairs, on peut reprendre et approfondir philosophiquement. Depuis les temps les plus reculés, jusqu'à aujourd'hui, on trouve dans les différents peuples une certaine perception de cette force cachée qui est présente au cours des choses et aux événements de la vie humaine. On trouve parfois même une reconnaissance de la divinité suprême ou encore du Père. Cette perception et cette connaissance pénètrent la vie des différents peuples d'un profond sens religieux. Quant aux religions liées au progrès de la culture, elle s'efforce de répondre aux mêmes questions par des notions plus affinées et par un langage plus élaboré. Et le Concile donne comme exemple de ces religions liées à une culture plus évoluée, les exemples de l'hindouisme, du bouddhisme, des musulmans et des juifs. Et dans tous les cas, le Concile rend très rapidement compte d'un ensemble de préceptes et de doctrines qui caractérisent les différents mouvements dont j'ai parlé, hindouisme, bouddhisme, musulmans et juifs. Alors si on revient sur le texte même du Concile, on nous y a parlé d'une certaine perception, c'est le mot du texte latin, perceptio, d'une certaine reconnaissance, le mot latin est anitio, c'est-à-dire d'une réflexion accompagnant la perception dont on a d'abord parlé, donc une certaine perception, une certaine reconnaissance de quoi? D'une réalité cachée, mais présente au cours des choses de ce monde. Cette perception, cette reconnaissance, elle fait naître et se développer dans le sujet humain ce qu'on appelle par ailleurs un sens religieux. Perception, reconnaissance, sens religieux, c'est-à-dire une manière de percevoir et de comprendre la réalité de manière religieuse. On pourrait dire, en langage thomiste, qu'on part d'un acte, la perception, la reconnaissance, elle développe en nous une aptitude, une mentalité, ce qui relèverait, les thomistes s'y reconnaîtront, de ce que saint Thomas appelle un habitus. Le sens religieux, ce sens religieux peut aboutir dans une culture donnée plus ou moins élaborée pour ce concile, peut aboutir à des notions affinées, des discours spécifiques, d'ordre à la fois théorique, il s'agit de d'une certaine compréhension, d'une certaine explication de la réalité, et pratique, il s'agit aussi de préceptes qui découlent de ou qui accompagnent ces grands jugements portait sur la réalité des choses et cette réalité cachée qui préside à leur ordre et leur déroulement. Dans le même document, Nostra Aetate, on ajoute que l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Donc, on n'est pas dans le domaine du tout faux, tout vrai. Hein? On reconnaît que dans ces religions, alors on vient de parler des grands courants religieux, de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam et du judaïsme, l'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir, de vivre, ses règles, ses doctrines, qui, quoi qu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce que l'Église catholique elle-même tient et propose, cependant, ces mondes religieux apportent souvent, je reprends les termes du Concile, un rayon de vérité qui illumine tout homme. Mais, poursuit le Concile, le devoir de l'Église est d'annoncer le Christ, plénitude de la vie religieuse, et dans lequel Dieu s'est réconcilié toutes choses. C'est intéressant de voir, important de voir, comment dans l'enseignement du Concile, on va parler de la foi chrétienne en termes de religion. Comment est-ce qu'on va situer la foi chrétienne dans le monde des religions? Ici, on dit que le Christ est plénitude de la vie religieuse qui existe ailleurs que dans le christianisme, avec des valeurs qu'on est tout prêt à reconnaître et à honorer. Mais le Christ est plénitude de ce qui existe de manière fragmentaire et variée, pour reprendre une expression biblique, ailleurs, et dans lequel Dieu s'est réconcilié toutes choses. Alors, on parle du christianisme comme d'une plénitude de la vie religieuse, mais on en parle aussi comme découlant d'un fait qui est celui de la réconciliation du monde avec Dieu dans le Christ. Voilà, c'était intéressant de jeter un œil sur Nostra Aetate avant d'examiner Dignitatis Humanae, parce qu'on trouve dans Nostra Aetate un texte qui a été promulgué un peu avant Dignitatis Humanae, des éléments généraux qui caractérisent d'une manière que toute personne chrétienne ou pas est capable de comprendre le fait religieux. Le texte que nous allons davantage travailler ce soir, c'est celui d'une autre déclaration conciliaire, Dignitatis Humanae, les premiers mots latins du texte, qui est intitulé Du droit de la personne et des communautés à la liberté sociale et civile en matière religieuse. Vous voyez que l'intitulé est un intitulé relevant du droit civil, et donc par là même qui intéresse la philosophie comme telle, hein, et pas seulement le discours intra-ecclésial, hein, du droit de la personne et des communautés à la liberté sociale et civile en matière religieuse. C'est donc la liberté religieuse d'abord une question de droit, une question juridique. Le texte de Dignitatis Humanae se réfère de manière privilégiée à l'enseignement alors tout récent du pape Jean XXIII. Dans la dernière encyclique qui était la sienne, la dernière lettre qu'il a promulguée et qui s'appelait Paix sur terre, Pacem in Terris. En effet, on peut dire que Jean XXIII a opéré un tournant dans l'enseignement du magistère relatif à la liberté religieuse. 100 ans après, un siècle après le Syllabulus du Bienheureux Pie IX, qui a condamné explicitement la liberté religieuse et avec elle la liberté d'expression, de presse, d'association, au nom des droits de la vérité et de l'Église. Jean XXIII fait de la liberté humaine et en particulier de la liberté religieuse
De mes mails.
un élément de
Mince, mets-moi dans mes mails,
la
on
prédication
va. Mais
de l'Église.
attendez, j'arrive. D'accord.
Jean
Oh
23 s'inscrit
non, c'est moi.
dans l'enseignement.
Et c'est la seule qui l'avait vue sur WhatsApp,
Alors,
c'est
il y a une personne qui doit couper son micro si elle le veut bien, parce
moi.
que tout le monde a bien coupé son micro. Voilà, merci. Jean 23 reprenait, mais il le faisait de façon plus décisive, décidée, je veux dire, un certain nombre d'éléments de l'enseignement de ses prédécesseurs, notamment Pie XI et Pie XII, qui eux-mêmes avaient approfondi l'enseignement de l'Église à la lumière de l'expérience fournie par les totalitarismes du XXe siècle. C'est-à-dire que l'expérience des totalitarismes nazis et communistes au XXe siècle a fait bouger l'enseignement officiel du magistère et l'a amené à reconnaître la légitimité de la liberté religieuse définie sans doute autrement que la liberté religieuse telle qu'en parlaient les adversaires de l'Église au XIXe siècle, visée par Pie IX. Je voudrais simplement citer ces lignes que je trouve lumineuses, qui ont été prononcées par Jean XXIII quelques jours avant sa mort, et qui disent bien que l'enseignement de l'Église catholique avait, relativement aux droits humains en général et à la liberté, évolué tout au long du XXe siècle. Maintenant, plus que jamais, dit Jean XXIII, c'est quelques mois après Pacem in Terris et quelques semaines avant sa mort, après la première session du Concile Vatican II. Il n'assisterait pas à la seconde, il serait mort et ce serait Paul VI qui l'aura remplacé. Maintenant, plus que jamais, dit Jean XXIII, certes davantage par rapport au siècle passé, nous, et il parle de l'Église catholique, nous sommes appelés à servir l'homme en tant qu'homme. Et pas seulement les catholiques, à défendre d'abord et partout les droits de la personne humaine, et non uniquement les droits de l'Église catholique. Comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture du Concile, les circonstances actuelles, les exigences des 50 dernières années, c'est la première moitié du XXe siècle, c'est l'expérience des deux guerres mondiales en particulier, et puis du nazisme et du communisme, une connaissance plus profonde de la doctrine nous ont amenés face à de nouvelles réalités. Ce n'est pas l'Évangile qui change, c'est nous qui commençons à mieux le comprendre. Qui a vécu longuement et a dû faire face au début du siècle aux tâches nouvelles d'une activité sociale qui investit tout l'homme, qui, comme moi, a passé 20 ans en Orient, 8 ans en France et a pu confronter cultures et traditions différentes, sait bien que le moment est venu de reconnaître les signes des temps, d'en saisir les opportunités et de regarder au loin. Et les signes des temps, c'était pour Jean XXIII, d'abord, ce dont va nous parler dès ses premières lignes, la constitution Dignitatis Humanae, c'est-à-dire une conscience plus vive de la dignité de la personne humaine et de l'obligation de la société, des autorités politiques et religieuses de respecter la liberté de la personne. La déclaration Dignitatis Humanae, qui se réclame d'une manière privilégiée à l'enseignement de Jean 23, commence par le constat d'une évolution des mentalités, qui est une évolution, je dirais, d'ordre philosophique ou anthropologique. Je lis le texte. La dignité de la personne humaine est en notre temps l'objet d'une conscience toujours plus vive. Toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options. Le texte latin dit, en prenant un mot qu'on trouve chez saint Thomas, de son propre conseil, agir en vertu de son propre conseil, et en toute libre responsabilité. Toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options, en vertu de son propre conseil, et en toute libre responsabilité, non pas sous la pression d'une contrainte, mais guidé par la conscience de son devoir. De plus en plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour toute personne humaine, en vertu de sa dignité, la possibilité de vivre selon ses choix et en toute libre responsabilité. À la lumière de saint Thomas, en commentant le texte du Concile, on peut rappeler que un acte est proprement humain quand il est un acte de volonté délibérée. Lorsqu'il y a eu délibération, conseil, président au choix, à la résolution qui conduit à l'acte. On pourrait dire, pour présenter en quelques mots ce qui a été affirmé par le Concile, que on est de plus en plus conscient de la nécessité qu'il y a à tout faire pour donner aux humains la possibilité d'agir de manière proprement humaine. Et de cette affirmation générale de la dignité humaine et du respect qu'on doit lui témoigner, en particulier du respect que l'on doit avoir pour la liberté des personnes, de ce constat découle une conséquence qui est une aspiration, elle, d'ordre juridique et politique. Hein, on constate une évolution des mentalités et de cette évolution des mentalités découle, selon le Concile, une aspiration d'ordre juridique et politique. De même, je reprends la lecture du texte, les gens de notre époque requièrent que soit juridiquement délimité l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics, afin que le champ d'une liberté honnête, qu'il s'agisse des personnes ou des associations, ne soit pas trop étroitement circonscrit. Donc, on a progressé dans la conscience de la dignité de la personne humaine, dans le devoir de respecter sa liberté, et donc dans l'ordre juridique sur la nécessité de délimiter l'exercice du pouvoir politique afin que la liberté des personnes et des associations ne soit pas trop étroitement restreinte par l'exercice de l'autorité politique. Il y a un principe en droit, je ne suis pas juriste, mais je connais moins ce principe, hein, qui dit, c'est peut-être un principe de droit canonique, mais odiosa sint restringenda. Hein, ce qui est, Odieux doit être dans la mesure du possible. Alors, il va falloir voir en quoi, qu'est-ce qui est possible, mais tout ce qui est odieux, et donc tout ce qui en particulier restreint la liberté, doit être restreint, justement, hein, le plus possible. Il ne faut pas en rajouter dans les mesures qui sont des mesures odieuses, en particulier donc des mesures coercitives à l'égard des personnes. Cette exigence de liberté dans la société humaine, qui découle de la dignité des personnes et donc de leur liberté, du respect de leur liberté, cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement, continue le concile, ce qui est le bien spécifique de l'esprit humain, l'apanage de l'esprit humain, dit une traduction que j'ai sous les yeux. Au premier chef, ce qui concerne le libre exercice de la religion dans la société. On a dit quelque chose de général sur la dignité de la personne humaine, sur la liberté de la personne humaine, sur le respect de cette liberté, sur l'obligation qu'ont les autorités civiles de restreindre tout ce qui peut être mesure coercitive à l'égard de cette liberté. Ce principe général, il s'applique en particulier pour tout ce qui est spécifiquement humain, c'est-à-dire ce qui relève de l'intellect, de la spiritualité, pourrait-on dire, hein, et au premier chef, dans l'exercice de la religion. On ne doit pas vous empêcher, bien sûr, de manger ce que vous estimez être bon pour votre santé, par exemple, hein. Ça n'est pas un bien proprement humain, mais a fortiori, ce que l'on dit de manière générale, hein, s'applique dans ce qui caractérise le plus l'humain, c'est-à-dire sa dimension religieuse, sa recherche du vrai et du bien. De ce constat d'une évolution dans les mentalités et les aspirations chez les hommes de notre temps, le Concile conclut à la nécessité d'approfondir la doctrine de l'Église. Considérant avec diligence, dit le Concile, ses aspirations, le but du Concile sera de déclarer à quel point elles sont conformes à la vérité, à la justice. Et comment va-t-il le faire, le Concile? Eh bien, d'abord, c'est une assemblée d'évêques, en scrutant la tradition sacrée, la sainte doctrine de l'Église, d'où on va tirer du neuf en constant accord avec le vieux. C'est pourquoi tout d'abord le Concile déclare que Dieu a lui-même fait connaître au genre humain, donc on est dans le domaine de la révélation, le domaine extra-philosophique. Dieu a lui-même fait connaître au genre humain le chemin par lequel, en servant Dieu, les hommes peuvent obtenir le salut et parvenir à la béatitude. Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique, à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître, la seule vraie religion, à tous les hommes lorsqu'il dit aux apôtres, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant, observant tout ce que je vous ai prescrit. C'est la finale de l'évangile selon saint Matthieu. Tous les hommes, d'autre part, sont tenus de chercher la vérité, continue le Concile, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand ils l'ont reconnue, cette vérité, de l'embrasser, de lui être fidèle. Alors, on va revenir sur ce qui est dit ici en envisageant les choses, encore une fois, d'un point de vue non pas spécifiquement théologique, mais philosophique. On reparle de la religion d'une manière générale. On la caractérise ici comme le fait de servir Dieu. Et ce service divin est un chemin de salut. Et on a cette expression qu'on retrouve aussi en contexte écuménique, mais là il s'agit de réfléchir à la religion en général, et de la situation de l'Église catholique dans le monde des religions, on trouve cette expression qui peut sembler un peu compliquée. L'unique vraie religion subsiste dans l'Église catholique et apostolique. C'est compliqué. Mais si c'est compliqué, c'est qu'on n'a pas dit purement et simplement la vraie religion, c'est le catholicisme. On aurait pu dire ça, les choses auraient été claires. On a dit la vraie religion subsiste dans l'Église catholique. Comme on dit ailleurs, la véritable Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Si on dit les choses de cette manière un peu compliquée, au lieu de dire tout simplement le catholicisme est la vraie religion, ou l'Église du Christ est l'Église catholique, c'est bien sûr, tout d'abord, première raison, pour reconnaître une part de vérité religieuse dans les traditions religieuses et spirituelles non chrétiennes. On a vu comment en parler la déclaration Nostra Aetate. On ne peut pas dire que ce sont de fausses religions. Même si on a pas caché que l'Église catholique tient des choses qui sont incompatibles avec ce qu'enseignent et préconisent les autres religions. Mais il y a quelque chose de cette perfection de la religion présente dans le Christ, il y a quelque chose de cette vérité religieuse dans les autres grandes traditions religieuses. Et par ailleurs, je dirais, il y a quelque chose de plus que la vraie religion dans l'Église catholique. C'est-à-dire, il y a quelque chose de plus que la plénitude du sens religieux tel que la sagesse humaine, la philosophie peuvent la penser de manière autonome, à partir de ressources qui sont les siennes. On ne peut pas réduire la foi chrétienne à l'épanouissement naturel du religieux. Ce plus découle du fait du Christ. Dans Nostra Aetate, si vous vous souvenez, on dit que on présente ce fait comme l'événement de la réconciliation de l'humanité avec Dieu en Jésus-Christ. Ce plus qu'il y a dans le christianisme par rapport à l'épanouissement naturel du religieux découle du fait du Christ et de la connaissance surnaturelle que ce fait nous donne de Dieu et de notre destinée. Ces deux raisons, hein, la reconnaissance de la part de vérité qu'on peut trouver dans les autres traditions religieuses et le fait, je dirais, que le christianisme ne peut pas être réduit à l'épanouissement du religieux en l'homme, l'épanouissement d'une sagesse religieuse en l'homme, qui explique le choix de cette formule un peu contournée, hein, la vraie religion subsiste dans l'Église catholique, et non pas l'Église catholique est la vraie religion, et les autres religions sont fausses, ou on a tout compris de la religion catholique lorsqu'on disait d'elle qu'elle était la vraie religion. Par ailleurs, nous l'avons bien relevé, le Concile Vatican II souligne que le fait du Christ, sa parole, son message, doivent être portés à la connaissance de tous les hommes et que tous les hommes sont appelés à y reconnaître la vérité et à s'y conformer. Quelle question ça pose pour la cohabitation pacifique des religions et comment est-ce que c'est compatible avec un respect réel des autres religions? On pourra y réfléchir et en débattre. Le texte continue en disant que ce double devoir, chercher la vérité, y adhérer une fois qu'on l'a reconnu, concerne la conscience de l'homme et oblige cette conscience. Le Concile Vatican II n'est pas du tout un concile qui prône ce qu'on appelait En théologie, avant l'indifférentisme, hein, toutes les religions se valent, donc bah, restez dans la vôtre et puis épanouissez-vous dans la religion qui est la vôtre, ça n'a pas d'importance, pas de prosélytisme religieux, en tout cas, bon, l'activité missionnaire de l'Église, dans ces conditions, on ne peut plus très bien comprendre. Ce n'est pas du tout la perspective du Concile Vatican II, hein, et qui parle même donc d'un devoir de rechercher la vérité et d'y adhérer quand on l'a connue, et qui affirme par ailleurs que cette vérité, elle est le Christ Jésus. Mais, ajoute le Concile, la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Ça m'a rappelé l'enseignement de Gandhi. Voilà un non-chrétien, voilà un homme que je crois profondément, sincèrement religieux. Quand il parlait de la non-violence comme force de la vérité, hein, Satyagraha, la non-violence était force de la vérité. Je crois que ça correspond à ce que dit le Concile de manière plus traditionnelle, disons, et plus ancienne. La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Et donc, et c'est là que l'enseignement de l'Église a progressé au point, quant à sa formulation même, de contredire un enseignement antérieur sur la liberté religieuse, puisque la liberté religieuse que revendique l'homme dans l'accomplissement de son devoir de rendre un culte à Dieu, puisque la liberté religieuse concerne son immunité de toute contrainte dans la société civile, eh bien, la liberté religieuse ainsi comprise ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral de l'homme et des associations à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. Ainsi que le Concile Vatican II résout les débats ne s'arrêtent pas avec le Concile Vatican II, mais répond à la question de la conciliation qu'il y a entre la vérité, le devoir de l'homme à l'égard de la vérité, d'une part, et l'exercice de la liberté religieuse. Ce faisant, elle donne de nouvelles caractéristiques aux faits religieux. Il s'agit de l'accomplissement d'un devoir, celui de rendre un culte à Dieu. Dans cette activité du culte, la revendication contemporaine, qui va grandissante, est celle d'une immunité de toute contrainte dans la société civile. Les personnes et les groupes ne doivent pas être soumis à la contrainte dans le domaine du culte. Cela, l'Église aujourd'hui l'entérine, et elle développe la doctrine des souverains pontifes les plus récents, c'est-à-dire en l'occurrence Paul VI, qui était pape à l'époque, Jean XXIII, et puis, dans une certaine mesure déjà, Pie XI et Pie XII, face au nazisme et au communisme russe. Doctrine sur les droits inviolables de la personne humaine et l'ordre juridique de la société. Alors, le texte de Dignitatis Humanae, je peux en avoir pour très très longtemps et on va entrer dans le débat. Le texte de Dignitatis Humanae est composé de deux parties. La première partie est intitulée La liberté religieuse dans sa compréhension générale. Et je crois que là, on est vraiment dans un domaine qui est celui de la philosophie, une philosophie ouverte aux religieux et même une philosophie éclairée par la foi chrétienne. Mais c'est la liberté religieuse comprise de manière générale par la raison. Puis la deuxième partie, c'est la liberté religieuse à la lumière de la révélation. Dans le cadre qui est le nôtre, bien sûr, je vais m'arrêter à la première partie, c'est-à-dire la liberté religieuse envisagée d'un point de vue rationnel, raisonnable, philosophique. Dans cette partie, les pères du Concile commencent par une déclaration tout à fait solennelle, hein, qui engage la foi catholique. La personne humaine a droit à la liberté religieuse. C'est-à-dire, tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Le Concile déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. On voit que la liberté religieuse, elle s'exerce à plusieurs niveaux. Elle s'exerce au niveau privé. Elle s'exerce au niveau public. On peut exercer une contrainte en matière religieuse dans le domaine privé, dans le domaine des relations intersubjectives, dans le domaine des familles, dans le domaine des communautés. Bien sûr, la liberté religieuse est aussi un droit qui s'exerce dans le domaine public. C'est un droit personnel dont doivent jouir les personnes, c'est un droit collectif, c'est un droit dont doivent jouir les groupes, les associations. Ce droit repose sur ce qu'est la personne humaine et sa dignité, sur la nature même de l'homme et sur le respect qu'on doit à la personne humaine en vertu même de cette nature. Cela nous a bien été confirmé par la révélation, mais la raison peut l'affirmer d'elle-même. Et vous voyez que donc on est dans un ordre de réflexion qui là est proprement philosophique. Et ce droit dans la société, non seulement il doit être reconnu de façon ordinaire, mais ça doit être un droit civil. Ça doit faire l'objet de lois qui le garantissent. Le Concile poursuit, en vertu de leur dignité, c'est-à-dire du respect qui découle de la nature humaine, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et de volonté libre, et par suite pourvus d'une responsabilité personnelle, en vertu de leur dignité, tous les hommes sont pressés par leur nature même et tenus par leur obligation morale à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la religion. Alors encore une fois, nous voyons le Concile tenir deux choses, la dignité humaine, le respect que l'on doit à l'humain, oblige les personnes et les collectivités à respecter la liberté dans le domaine religieux, mais oblige aussi les personnes et les groupes auxquels ils appartiennent à chercher la vérité et à s'y conformer en premier lieu dans le domaine du culte. On caractérise l'humain comme être personnel, c'est-à-dire doué de raison et de liberté. Et là encore, ceux qui connaissent saint Thomas savent que ce sont des enseignements fondamentaux et approfondis par lui. Un être qui, en tant qu'il est doué de raison et de liberté, est un être appelé, et donc un être qui doit répondre à cet appel, responsable, l'appel le plus fondamental étant la recherche de la vérité, et tout d'abord de la vérité de la religion relative à Dieu et à son culte. Or, cette obligation, les hommes ne peuvent la satisfaire d'une manière conforme à leur propre nature, que s'ils jouissent, outre de la liberté psychologique, de l'immunité à l'égard de toute contrainte extérieure. La liberté religieuse, c'est assurer aux personnes, dans leur recherche de la vérité ou dans leur pratique religieuse, la liberté psychologique. Qu'est-ce que c'est que la liberté psychologique, hein? Qu'est-ce qui favorise la liberté psychologique et l'immunité à l'égard de toute contrainte extérieure. Le respect de la liberté psychologique implique le droit de s'équiper de telle manière que cette liberté soit effective. Non, je me suis trompé en relisant. Cette liberté, la liberté psychologique, c'est ce que je voulais souligner, la liberté psychologique, elle-même est défendue par le droit. Et l'évolution récente du droit français va dans ce sens, vous le savez, avec la loi Hamon-Picard de 2001, qui est une loi prenant en compte et introduisant la quête dans le droit, dans le domaine de juridique, l'abus de faiblesse. La mise, le fait de porter préjudice à quelqu'un en l'ayant mis sous emprise, ce qui est un fait aggravant. Et même depuis mai 2014, donc c'est une évolution toute récente du droit français, c'est le fait même de la mise sous dépendance, de la mise en état de sujétion qui est considéré comme un préjudice et comme un délit. Donc, le droit, à la lumière du développement je dirais, la psychologie sociale et en particulier de la victimologie, s'équipe aujourd'hui pour assurer, et c'est un domaine délicat, hein, pour assurer la liberté psychologique des personnes. Le Concile, je reviens à lui, insiste sur le fait que ce n'est pas une disposition subjective de la personne, ses qualités, son caractère, mais c'est la nature même de la personne qui fonde le droit à la liberté religieuse. Et c'est pourquoi la liberté religieuse concerne même ceux qui ne satisfont pas à l'obligation morale de chercher la vérité et d'y adhérer. C'est-à-dire, bon, l'homme est obligé de chercher la vérité et d'y adhérer, mais si quelqu'un ne le fait pas, ne satisfait pas à cette obligation, est-ce que on doit respecter sa liberté comme on le fait pour les autres? Bon, c'est dit oui, parce que cette liberté, elle découle non pas des dispositions subjectives de la personne, mais de la nature même de la personne. C'était un argument contre la liberté religieuse, même agité dans le sein de l'Église. Si l'homme ne satisfait pas à ses obligations religieuses, eh bien, le Concile dit, il reste homme. Il doit être respecté en tant que tel dans sa conscience et pas soumis de manière coercitive en matière religieuse. L'exercice de la religion ne peut être entravé dès lors que demeure un ordre public juste. Si les pratiques religieuses portent gravement atteinte à l'ordre public, alors c'est le droit et même le devoir des autorités politiques d'intervenir. Ça fait partie aussi de l'enseignement du Concile. Suite à un enseignement, mais je vais aller vite maintenant pour qu'on ait le temps de discuter, qui reprend la notion qu'on trouve chez saint Thomas, qui est très développée chez lui, de loi divine. La loi, c'est la règle de l'agir. Or, Dieu est dans son être même, règle suprême, qui gouverne le cours du monde et qui est norme pour l'activité humaine. Ce qu'est Dieu, c'est la lumière qui nous permet de réguler notre propre agir, comme c'est la cause première de l'ordre de la nature. Et l'homme, être rationnel, participe de cette loi divine. Il connaît Dieu, ce qui découle de l'être divin dans le cours des choses, et ce qui en découle pour son activité d'homme, de telle manière qu'il peut adhérer librement et s'associer à la sagesse et à l'amour de Dieu. La providence divine, qui est le gouvernement des choses divines avec sagesse et par amour de la part de Dieu, participé par l'homme, c'est ce que, dans la doctrine de Thomas, on appelle la prudence humaine. Le mot latin est le même d'ailleurs, hein, providence et prudence. La prudence humaine est comme le reflet de la providence. Eh bien, l'homme est appelé à pénétrer toujours davantage dans la vérité divine et donc à connaître toujours mieux la loi divine, mais il doit le faire en mettant en œuvre les ressources de sa nature, donc dans la liberté. Et cela fait partie du plan divin qui doit être respecté. Autre principe, l'homme est un être social, d'où l'importance de l'enseignement, de l'échange et de toute forme d'aide mutuelle dans la quête de la vérité. Ça aussi, c'est Aristote et Thomas, hein. L'humain est un animal social, hein, qui ne peut épanouir les ressources qui sont celles de sa nature qu'en société, en particulier les ressources religieuses. Et donc, la liberté religieuse implique la liberté de vivre sa religion en groupe, collectivement, là où on pourra transmettre des savoirs, cultiver, épanouir des vertus. La religion est d'abord affaire d'intériorité, elle pose des actes qui sont d'abord intérieurs, des actes de volonté, des connaissances. Le culte divin est d'abord intérieur. Il consiste à se placer sous la dépendance de Dieu. Et donc, à écouter sa propre conscience à travers laquelle Dieu nous parle. Mais la religion doit aussi s'exprimer extérieurement parce qu'elle a un caractère social. La religion doit être le lieu d'une éducation, d'un échange, d'une recherche collective de la vérité, et tout cela doit aussi être respecté par les autorités publiques. Il faut donc d'une part que l'ordre public juste soit sauvegardé, et il faut d'autre part que l'ordre public favorise l'autonomie des groupes religieuses. Le texte du Concile dit les communautés religieuses. Dans l'exercice du culte, dans l'assistance religieuse portée aux membres de ces communautés, dans les institutions qu'elles fondent, dans la formation des ministres du culte, dans l'administration du culte, dans l'ordre de l'expression, de la communication du message religieux, dans les constructions d'édifices matériels, dans la gestion des biens religieux, dans la diffusion des idées religieuses et dans l'action que les religions exercent légitimement sur la société, par exemple à travers des activités caritatives. Tout cela, c'est l'ensemble de droits qui doit être préservé, même favorisé par la société. Je termine par les derniers mots de Nostra Aetate, donc la constitution sur le rapport du christianisme avec les autres religions. Et c'est sur ce point que je voudrais surtout insister dans notre réflexion ultérieure. Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes. Ça, c'est le fait de la religion, d'une religion pleinement épanouie à la lumière du Christ. Nous ne pouvons invoquer Dieu comme Père de tous les hommes si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes qui sont pourtant créés à l'image de Dieu. La relation de l'homme à Dieu le Père et la relation de l'homme à ses frères humains sont tellement liées que l'Écriture dit, qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. La religion donc fonde le respect des droits humains et s'oppose de soi à toute atteinte contre les droits humains. La religion, au moins si on l'entend comme qualité d'âme, comme vertu, c'est la vertu même du respect que l'on doit porter à Dieu, mais en conséquence aussi à toute personne en qui on reconnaît l'image de Dieu. Et c'est pourquoi elle est vraiment dans la pensée de la tradition. Je crois qu'il nous faut retrouver cette vertu de religion comme qualité d'âme, le fondement non seulement de la liberté religieuse, mais du respect des droits humains. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'étais comme toujours un peu trop long. Voilà, nous avons.
C'était très bien, très clair. Enfin, merci de nous éclairer. Mais maintenant, il y a un temps d'échange. Allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions à Frère Gilles. Il sera ravi d'y
D'y
répondre.
réfléchir avec vous. Jean-Luc.
Si vous voulez, je vais parler, enfin, de votre introduction. Vous avez parlé de la position de Boursier, enfin, de Cif, par rapport à celle de pape précédent, je sais lequel, qui avait une autre, toute autre vision de la liberté religieuse et s'y opposait. Est-ce que vous pourriez nous éclairer vraiment l'impression que c'est inimaginable.
Alors, après la Révolution française, plusieurs papes, Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII encore, condamnent le principe de liberté religieuse en considérant qu'elle est non seulement qu'elle n'est pas un exercice légitime de la liberté humaine, mais qu'il s'agit plutôt de licence. C'est-à-dire que la liberté religieuse consisterait dans le refus de toute coercition exercée par les pouvoirs civils en matière religieuse. Or, cela pose beaucoup de problèmes pour l'Église catholique. D'abord parce qu'on est très largement en régime concordataire. Et que ce régime concordataire entraîne un certain nombre de discriminations qui sont alors qu'on estime encore légitimes, hein, dans les États pontificaux. Les Juifs sont soumis à certaines discriminations, d'où les affaires, Mortara par exemple, hein, l'affaire de cet enfant baptisé en cachette par une servante juive et qui, par une servante chrétienne, pardon, et qui, de ce fait, a été enlevée à ses parents, hein, pour être éduquée dans des institutions religieuses. Entre parenthèses, on faisait ça de façon beaucoup plus massive en Irlande, hein, ou en Angleterre, à l'égard des catholiques, hein, c'est-à-dire que vous étiez dans un régime où telle confession était religion d'État. Ce qui entraînait une différence entre les cultes et ce qui pouvait entraîner des mesures coercitives lorsqu'on estimait que la conduite des personnes mettait en péril la vérité de la foi. Ou encore les mesures prises, alors là c'est plutôt au Moyen-Âge, hein, mais ça fait partie de la tradition aussi. Contre ce qu'on appelle les apostats. C'est-à-dire qu'on considère que le baptême a été un engagement et que vous ne pouvez pas rompre cet engagement et que les pouvoirs publics doivent intervenir lorsque cet engagement a été rompu. C'est ce qui légitime le fait qu'on enlève l'enfant juif baptisé, même à l'insu de ses parents, à sa famille. Parce que, ayant été baptisé, même à l'insu de ses parents, il a de ce fait objectivement contracter une obligation, et c'est le devoir de l'autorité que de faire respecter cette obligation. Donc on a cet enseignement qui est l'enseignement de l'Église catholique, qui est toujours aussi très soucieuse de protéger les plus démunis intellectuellement, hein, dans un monde où l'éducation n'est pas répandue de la même manière qu'aujourd'hui. Donc on a un sens très fort de la responsabilité des autorités ou des élites à l'égard des populations. Et donc il faut protéger les populations contre la diffusion de mauvaises idées. Donc la liberté religieuse, c'est aussi conçu comme autoriser n'importe quelle publication ou n'importe quelle association. Et ça, c'est fermement condamné par le pape. Mais on voit qu'il y a quelque chose de très, comment dire, de très ambigu, parce que dans la condamnation de ce qu'on appelle alors le libéralisme, hein, il y a des éléments très importants, hein, qui sont le fait de contrôler la liberté de la presse. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, les questions se posent dans un contexte tout à fait différent, mais que faire par rapport aux fake news, etc. C'est un peu, je pense que la question n'est pas sans rapport. Hein. Est-ce que les autorités, qu'est-ce que les autorités doivent exercer comme vigilance et comme contrainte à l'égard de la diffusion des idées? C'est aussi lié, la position de l'Église catholique, à une certaine conception du salut. Alors, le même pape Pie IX est le premier à dire officiellement qu'il n'est pas catholique d'affirmer qu'un non-baptisé ne sera pas sauvé. Pie IX est le premier à le dire, hein, c'est-à-dire qu'on peut être sauvé sans être catholique du fait que l'on suit sa conscience. Alors, il n'est pas le premier à le suivre en théologie, mais c'est le premier à le déclarer officiellement. Mais tant qu'on ne, on ne. Quand on a une conception du salut, je vais dire une sotériologie, c'est le mot théologique, une conception du salut très étroite, alors l'Église catholique se dit ce qui est en jeu, c'est le salut éternel des personnes. Et on n'a pas. C'est la responsabilité d'autorités qui sont par ailleurs officiellement chrétiennes, hein, d'empêcher la diffusion d'idées qui mettent en péril le salut éternel. Qu'est-ce qui va faire changer les choses? Je vous ai dit, c'est le marxisme et la rencontre du marxisme et du nazisme. Et les choses évoluent très. Parce qu'au début, même, on voit, enfin, quand le fascisme se développe en Allemagne, et même le nazisme, l'Église catholique est plutôt complaisante par rapport à des régimes autoritaires. Parce que justement, les régimes autoritaires mettent un peu de l'ordre, etc. Et puis, progressivement, on se rend compte qu'il y a là une négation radicale de l'humain. Et c'est Pie XI, et plus clairement encore Pie XII, qui parle de la violation de droits fondamentaux et s'y oppose. Mais il faut attendre Jean XXIII pour que, de façon très claire, on dise ça fait partie du devoir de l'Église de défendre l'homme en tant qu'il est homme. C'est-à-dire de défendre la liberté humaine parce que ça fait partie inhérente de sa dignité voulue par Dieu. Mais c'est Jean-Paul qui le dit de façon la plus radicale. Alors, dans les textes magistériels, vous voyez qu'il y a toujours le fait de dire, en fait, ils disent, l'Église délivre son enseignement dans l'histoire et ce que l'on dit à une époque donnée ne peut plus être dit de la même manière à une autre époque. Et c'est le cas, manifestement, de la liberté religieuse. On pourrait aujourd'hui, je crois, dire un peu la même chose relativement à la guerre juste ou à la peine de mort. La peine de mort, c'est assez proche d'ailleurs, parce que la peine de mort, alors que le gouvernement italien a aboli la peine de mort dès la fin du 19e siècle, il y a une guillotine au Vatican jusqu'à Paul VI. C'est-à-dire que c'est une façon, on n'a jamais utilisé, hein, mais c'est une façon de dire que la peine de mort, elle n'était pas immorale. Aujourd'hui, vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, et c'est ce qu'on vous enseigne, bon, en tenant compte de circonstances, de mentalités qui ont changé, etc. Il y a un livre qui vient de paraître de François Huguenin, qui s'appelle La Grande Conversion et qui dit assez bien, je crois, les conditions de cette évolution de l'enseignement de l'Église catholique relativement à la liberté religieuse. Et donc, alors, je trouve que Jean XXIII dit les choses de manière lumineuse, et puis il le dit en étant, je veux dire, vraiment enraciné dans la tradition et la piété, la plus passionnelle de l'Église. Il dit, mais ce que nous comprenons désormais, et c'est pas que l'Évangile a changé, mais c'est que nous comprenons mieux l'Évangile, c'est que c'est le devoir de l'Église, et donc de tout chrétien, de défendre l'humain en tant qu'humain, de défendre non pas seulement les droits de l'Église catholique, mais les droits de tout homme. On voit bien que c'est aussi la cause d'un changement dans l'attitude de l'Église catholique et ses interventions au domaine politique. Si les papes du 19e siècle n'interviennent pas lorsque, bon, il y a telle atteinte grave affectant des populations non catholiques, à commencer, nous le savons aussi, par les juifs, c'est parce que, d'une certaine manière, ils estiment que ce n'est pas leur domaine de compétence. Hein, leur domaine de compétence, c'est de défendre les droits de l'Église catholique. Et Jean XXIII dit, nous comprenons mieux que l'Évangile nous oblige à défendre l'homme en tant qu'homme. Ce n'est pas l'Évangile qui change, c'est nous qui commençons à mieux le comprendre. Cette parole me semble vraiment lumineuse. Hein.
Est-ce que je peux poser une question?
Mais oui, on
Oui.
l'attendait.
Mais oui, OK. Vous venez d'utiliser l'expression l'homme en tant qu'homme, je trouve c'est très bien, là. Mais je me demande, je pense au numéro 6 là, de l'encyclique. Je sais que Paul VI était proche de Maritain. Maritain, il y a du personnalisme là-dedans. Puis, en tout cas, moi, ce que j'ai reçu des enseignements comme de Charles de Coninck sur la primauté du bien commun, tout ça. Puis j'ai déjà lu récemment aussi un texte de Michel Boyancet à Paris là, sur ces questions-là du bien commun. Bon, je vois bien que, et je me réjouis que ça parle du bien commun là, dans le texte du Concile là, de Paul VI, mais en bon thomisme, là, le bien commun, c'est une fin. Il est en Dieu où il y a le bien commun de l'univers. Mais ici, au numéro 6, c'est quand même un peu étonnant que le bien commun est décrit comme l'ensemble des conditions de vie sociale permettant là. Donc, des conditions, on est dans l'ordre des moyens, hein, ce qui permet, ce qui est un moyen. Des conditions, on n'insiste pas sur le fait que c'est un but ou une fin. Puis, je me demande aussi s'il n'y a pas une ambiguïté à dire que on finit en parlant de la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine. Bon, Maritain distinguait entre individu et personne, mais Charles de Coninck lui reprochait dans le fond, sous prétexte que la personne singulière, bon, ça, ses fins spirituelles et tout ça, il disait oui, mais c'est pas une raison pour. Il y a une subordination au bien commun à différents niveaux, là. Et toujours la partie est subordonnée au tout et on ne peut pas, sous prétexte qu'on vise une fin spirituelle, penser que dans ce cas-ci, le tout était au service complètement de la partie, là, ou, en tout cas, Charles de Coninck voyait vraiment une déformation de l'enseignement traditionnel et de la vérité, là, dans le personnalisme de Maritain. Là. Je ne sais pas
Oui.
si vous connaissez son ouvrage de la primauté du bien commun, là,
Oui, tout à fait,
oui.
je connais. Alors, une petite mise au point, Louis, vous dites, ce n'est pas l'enseignement de Paul VI, c'est l'enseignement du Concile Vatican II. Hein,
D'accord.
dans le Concile Vatican II, je dirais avec un petit sourire que Jacques Maritain n'était pas présent comme expert, mais Charles de Coninck y était, me semble-t-il, hein, comme expert
Ouais.
du Concile. Donc, c'est pas du Paul VI, c'est du Maritain derrière Paul VI. Même si Jacques Maritain a joué un grand rôle, vous le savez, dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Ouais.
Alors ensuite, ça c'est un petit point de vue, une petite mise au point historique. Ensuite, pour la question, elle est très importante et très complexe que vous posez, et vous rappelez tout à fait à juste titre que la défense du principe de la primauté du bien commun qui, c'est ce que rappelle d'ailleurs dans le livre dont vous venez de parler, Charles de Coninck, explique qu'une personne, par exemple, puisse se sacrifier pour sa patrie, hein, c'est-à-dire pour le bien commun, donner et perdre sa propre vie. Mais il y a bien commun et bien commun. Il y a bien commun, le bien commun qui est à la charge des autorités civiles. Le bien commun qui est à la charge des autorités civiles n'est pas immédiatement, au moins, et pas dans une société chrétienne, la finalité surnaturelle de la vie humaine. Hein. Au niveau de la, ce bien commun-là, qu'est finalement le royaume de Dieu, hein, à ce niveau-là, effectivement, on ne peuvent plus s'opposer le bien des personnes et le bien commun. C'est au niveau, je dirais, temporel, naturel, que les deux peuvent entrer en conflit. Que quand ils entrent en conflit, il est naturel que la partie se sacrifie pour le tout, en entendant par partie la vie naturelle terrestre de l'homme. C'est-à-dire qu'en aucun cas, le bien spirituel de l'homme ne doit être sacrifié à ce bien commun qui est le bien temporel de la cité. En aucun cas. Hein. Donc, vous voyez, le principe, le bien de l'individu soumis au bien commun, ça doit être discuté, relativisé. On doit distinguer entre bien commun et bien commun. On doit distinguer entre bien individuel et bien individuel. Moi, je pense que l'homme ne s'épanouit vraiment, n'accède au bien plénier qui est le sien qu'en société, hein, et que la vie communautaire reflète au plus près la perfection de l'être divin, je dirais, hein. C'est des choses qu'on trouve déjà d'ailleurs chez les philosophes et qu'on retrouve en théologie. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et il en va de, je dirais, de même du bonheur de l'humain, hein, que d'ordonner sa propre vie individuelle à la vie de la communauté. Là, c'est tout à fait vrai. Là, il y a quelque chose de, je crois, de très important chez nos auteurs, comme de Coninck et Jacques de Montléon aussi, hein. Mais je crois que il faudrait réfléchir pour ne pas opposer de manière trop raide le bien des individus et le bien commun, en disant, ben, dans tous les cas, le bien des personnes est inférieur au bien des communautés. La grande, c'est le propre des pensées totalitaires. Hein, où il y a le grand tout. Alors, quel est d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le grand tout, hein? La nation, l'humanité avec un grand H, ça prime le bien des personnes. Et donc, on doit pouvoir sacrifier non seulement leur vie physique, leur vie matérielle, mais même leur vie spirituelle ou peu importe. Et ça c'est intenable aussi. Vous voyez? Donc, le rapport bien des individus, bien commun, c'est une question vraiment complexe. Même si c'est très utile de relire Primauté du bien commun de Charles Coninck et de voir quelle valeur il défend.
Parce qu'il aurait été d'accord avec ce que vous venez de dire, là. Il faisait ces nuances-là, d'ailleurs.
Oui,
Il
bien sûr, oui.
craignait que ça soit simplement un prétexte, là, ce contexte du totalitarisme. Mais il flairait une sorte d'individualisme dans la proposition de Maritain, une volonté comme si le chrétien pouvait échapper à sa subordination au bien commun, comme s'il pouvait faire preuve d'individualisme parce qu'il y avait un côté spirituel, là, puis
C'est
il y a
vrai.
quelque chose de dangereux, de pervers là-dedans, là, je pense.
Ouais. Enfin, je dirais pas pervers, je dirais peut-être dangereux, et parfois je me trouve quand même un peu trop raide. Il devrait faire. Maritain, vous savez, invitait à distinguer entre le bergsonisme d'intention et puis le bergsonisme dans l'expression qu'il avait prise. Moi, je trouve qu'on peut au moins faire La même distinction pour Maritain, hein, même si on peut dire que certaines expressions sont insatisfaisantes et dangereuses, il faut le dire dans un débat philosophique. Autrement, je les trouve parfois très, 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 très raides dans dans leur appréciation des positions de Maritain. Alors, ça, c'est ma position personnelle. Je ne sais pas d'ailleurs, mais ça peut être que Dominique, vous pouvez, Michel, vous pouvez le dire. Charles de Connac meurt en quelle année?
En 65.
Pendant le concile, justement, il était à Rome quand il est mort.
Il est mort à Rome en 65.
Donc, mais s'il est mort en 65, c'est pour ça que je pose la question, il a donc suivi les débats conciliaires sur les deux décrets que je dis jusqu'à la fin. Et donc, on peut
Alors,
penser qu'il
décembre, je ne sais pas quand il est mort.
a été brièvement à Rome. Je pense que oui, bon, il doit falloir
Oui, je n'ai pas la participation de Charles de Coninck au Concile.
Louis, est-ce que vous savez les...
Moi,
Non.
je suis pas au courant de ces détails-là. La seule chose que je sais, c'est que quelques jours avant sa mort, il devait avoir un rendez-vous avec Paul VI, mais en rapport avec Humanivité, enfin, en
Eh
rapport
bien,
avec la régulation des naissances. Mais le rendez-vous, la rencontre ne s'est jamais faite parce qu'il est mort juste avant, là.
D'accord.
Il est mort le 13 février 65.
D'accord.
13
Bon.
février 65, oui, donc il n'a
Il n'a pas connu
pas
la
connu
promulgation
les...
des décrets,
Il
mais
n'a pas connu,
il a participé au débat, je veux
non.
dire. Hein. Ça, et je pense qu'il y a participé de façon à sa place, qui était celle de conseiller à un évêque. Hein. C'est donc
Du cardinal Roy.
voilà, le cardinal Roy.
Le cardinal Maurice Roy, qui était l'archevêque de
Oui.
Québec
Mais
à l'époque.
parce que être au concile, c'est une chose, mais il devait correspondre au moins avec l'évêque qui lui avait demandé son aide. Donc, de ce point de vue-là, voilà,
Oui.
il a plus.
Ouais.
Mais apparemment.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir?
Oui, moi, je veux bien poser une question. En fait, quand je repense, enfin, je remémore tout ce que vous nous avez exposé, je voudrais savoir si cela conduit à une séparation entre l'Église et l'État. Et d'autre part, compte tenu des enjeux, par exemple, nous, dans notre société française, est-ce que ça irait vers une affirmation de la laïcité, finalement? En fait, le fait de préserver cette liberté individuelle. Voilà.
Alors, dans l'enseignement du Concile, on envisage la possibilité d'une situation concordataire pour des raisons historiques. On ne dit pas que c'est illégitime. Au Concile même, les évêques espagnols et portugais, hein, à l'époque, qui est donc en régime où le catholicisme était encore religion d'État, ce qui n'est le cas aujourd'hui, je pense, qu'à Monaco, bon, évidemment, au
En
Vatican.
Belgique.
Je ne pense pas qu'en Belgique ce soit le cas, comme religion d'État. Alors, on fait distinguer entre religion, enfin, concordat, le fait que la religion soit religion d'État. Jean-Luc et moi sommes issus d'une région, la Moselle, ou comme en Alsace,
Concordataire.
on est en France, mais sous régime concordataire. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on appelle séparation? Hein? Séparation, ça peut, si ça signifie distinction, ça a toujours été tenu par l'Église. Et l'Église s'est beaucoup défendue, même au Moyen Âge, pour que sa liberté soit respectée à l'égard des autorités civiles. Et les autorités civiles, qui étaient chrétiennes, se sont aussi battues pour que leur autonomie soit respectée par rapport au pouvoir religieux. Il faut dire que ça, c'est un fait de chrétienté, la distinction des pouvoirs. Hein? Mais dire que les pouvoirs sont distingués, ça ne veut pas dire qu'ils s'ignorent l'un l'autre. Même dans un contexte de démocratie libérale, beaucoup de philosophes, je pense à des gens comme aujourd'hui Paul Ricoeur, ou je pense Charles Taylor, que je connais mal, mais au Canada, insistent sur la contribution que les églises et les religions doivent apporter à la vie démocratique. Hein. C'est-à-dire que non seulement il faut les tolérer, non seulement il faut respecter leur liberté, mais il faut les favoriser du point de vue qui est celui de l'État, parce qu'elles apportent quelque chose à la vie de l'État. Et ça, c'est quand même ce qu'on vit largement en France, dans la condition actuelle, où, quoi qu'il en soit de conflit, ou de, on reste, on donne la parole aux autorités religieuses, catholiques en particulier, dans les grands débats éthiques, hein, même s'ils sont plus elles
Oui.
qui commandent le voilà.
Oui, il y
Oui,
a
je comprends, mais dans l'enseignement.
cette position
Oui, tout à
qui
fait.
pourtant
Du
vient
marxisme,
d'un
de
du
l'école franco.
marxisme qui est
Peut-être
infirmé.
redire ce que dit
Oui,
Monsieur
alors,
Lefol. Je
voilà,
pense qu'ils n'ont pas entendu.
on parle ici, puis on parle, donc c'est toujours un peu difficile quand on est en ligne. Donc, vous dites avec raison que même un philosophe comme Habermas, qui vient de l'école de Francfort, d'inspiration marxiste, dans le cadre de ce qu'il appelle l'éthique de la communication, défendra non seulement la liberté religieuse, mais l'idée selon laquelle les groupes religieux contribuent aux échanges, aux débats publics et doivent être respectés et favorisés dans ces activités. Donc, bon, la laïcité elle-même, on peut la concevoir de différentes manières. Vous savez que le pape à Ajaccio a défendu une conception dynamique et ouverte de la laïcité. Ce sont ces termes. Donc, le principe de laïcité, oui, on le trouve dans le texte du Concile. La possibilité, pour des raisons historiques, d'un lien privilégié entre un État et une tradition religieuse n'est pas condamnée en soi. Hein? Ça existe encore, bien sûr, et même, bon, c'est le cas de la plupart des pays islamiques aujourd'hui. Et ça, ça n'est pas condamné en soi. Ce qui est condamné, c'est qu'il y ait discrimination entre les citoyens en raison de leur identité religieuse.
Est-ce que, par exemple, un enseignement des religions par les institutions, enfin par l'État, à l'école, j'en sais rien, est-ce que ça, c'est... Vous voyez, c'est ces sujets-là, est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas.
Ben, c'est-à-dire, je pense que c'est très compliqué parce que qu'est-ce qu'on appelle l'enseignement des religions? Est-ce que c'est un enseignement qui consiste à parler de l'histoire des religions, à présenter des textes religieux aux étudiants?
Bien sûr, oui.
Pourquoi l'interdire? Au contraire, enfin, je pense que c'est une bonne chose. L'enseignement confessionnel, moi je viens d'une région où, dans mon enfance au moins, il y avait non seulement un enseignement sur le fait religieux, mais il y avait un enseignement religion. On venait me donner le catéchisme à l'école publique, hein, que ce soit le curé, le pasteur, le rabbin, ou venait à l'école publique donner. Et je pense que ça n'avait absolument aucun caractère attentatoire par rapport. En revanche, bien sûr, si dans cette étiquette, sous cette étiquette enseignement des religions, on impose un enseignement qui est contraire aux convictions des parents, de la famille de l'enfant, alors là, oui, on porte atteinte à la liberté religieuse. C'est vraiment, et pour beaucoup de sujets, une question qui est toujours épineuse, hein, en matière de morale, bien sûr, hein. Je pense que si on. Aujourd'hui, c'est vraiment une question compliquée, devant certaines questions de morale, de dire qu'est-ce qui peut être enseigné à l'école et qu'est-ce qu'on a le droit de rejeter comme enseignement dispensé aux enfants à l'école. Mais déjà, voilà, ça c'est un débat très compliqué. Je pense que c'est difficile d'avoir des positions tranchées et globales sur ce point. Mais quant à la distinction de la sphère de l'État, de la sphère ecclésiale, ça, l'Église, je pense, est claire. Hein, et aussi la défense d'une saine laïcité, en ce qu'elle distingue et en ce qu'elle refuse de discriminer les personnes pour raisons religieuses, ça c'est clairement affirmé.
Il me semble que monsieur avait une question.
Oui, enfin, c'est pas
Ou
une
une
remarque.
remarque.
Moi, je trouve quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce texte, c'est sa communauté politique explicite. C'est le lien qui est établi entre la possibilité pour chaque homme de rechercher la vérité et l'existence d'un ordre politique juste, qui est ici un ordre politique libéral, puisqu'il garantit précisément la liberté pour chaque homme de poursuivre la vérité. Et ça, je trouve que le lien qui est établi entre la vérité et l'ordre politique juste est vraiment très très intéressante.
Oui. Alors, je pense que c'est un discours qui, par ailleurs, ne peut être tenu que dans une sphère religieuse. Hein, quand on parle de la recherche de la vérité, je pense, je ne connais pas de manière de seconde main seulement, mais un auteur comme Tocqueville, hein, un grand penseur de la démocratie. N'aborde pas les choses de cette manière-là, hein, alors que lui-même est croyant. Hein, mais il dit que il montre comment les religions sont nécessaires pour qu'une démocratie ne dégénère pas dans un individualisme qui finalement devient mortifère pour l'État et la nation.
Ouais.
Donc, à partir de Tocqueville, on peut vraiment penser, ou ces penseurs libéraux, on peut penser non seulement pour les religions un statut qui soit un statut où on les autorise, où on les... mais de penser leur rôle nécessaire dans une vie démocratique, dans une société démocratique.
Merci. Une dernière intervention ou question, parce que l'heure passe, mais c'est tellement intéressant qu'on est prêt à continuer encore un peu. Est-ce que vous avez des questions? C'est fort.
La religion subsiste dans l'Église catholique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La vraie religion subsiste dans l'Église catholique. Non.
Ça veut dire que la vraie religion, dans tout ce qui la caractérise, est présente dans l'Église catholique. Elle subsiste dans, ça veut dire qu'elle est présente dans tout ce qui la constitue dans l'Église catholique.
Est-ce que vous voulez dire qu'elle n'est pas l'apanage de l'Église catholique?
Ce n'est pas ce qui est dit. Moi, je tiendrai, ça on pourra y réfléchir au moment où on réfléchira à la religion comprise comme qualité d'âme, comme vertu. Je tiendrai que il n'y a qu'une seule vraie religion et qu'effectivement, cette religion est, elle trouve sa vérité dans le Christ. Mais entendu comme qualité d'âme, il me semble que la vraie religion implique au moins le respect des droits humains, et peut-être même que, est-ce que je vais trop loin, la religion entendue comme qualité d'âme, comme vertu, correspond d'assez près à ce que dans notre culture contemporaine, on appelle la non-violence, finalement. Comme qualité d'âme, comme vertu, comme vraie religion, ce qui permet aussi de comprendre que la religion n'est pas en soi un phénomène de violence, mais au contraire un phénomène de non-violence, et que les religions ne sont pas en concurrence les unes contre les autres, mais qu'elles devraient se rejoindre dans cette vertu du respect de Dieu et donc de l'humain, que moi j'appellerais volontiers, en soumettant la chose à débat, la non-violence. Comprise de cette manière-là, il n'y a qu'une seule vraie religion, et cette seule vraie religion, elle subsiste bien dans le Christ et dans l'Église catholique.